et appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Pendant une heure, RFI vous donne la parole. Dans le débat, nous parlerons du massacre du 28 septembre en Guinée. Ce jour-là, l'opposition s'était réunie au grand stade de Conakry. La répression des militaires a fait au moins 157 morts. Plus d'une centaine de femmes avaient été violées. Et les Guinéens attendent toujours la justice. Le gouvernement promet que le procès s'ouvrira avant la fin de l'année. Mais 8 ans après les faits, l'instruction n'est toujours pas terminée. Alors, la justice guinéenne est-elle capable d'organiser ce procès? Vous êtes déjà nombreux au standard et sur Facebook, mais vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler pour participer. En attendant de lancer le débat, ce sont vos questions à la rédaction. La première nous vient de Kinshasa. Bonjour Pierre.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions sur le Kenya?
Oui, bien sûr Anne. Je voulais savoir, hier 8 août 2017, les Kenyans se sont rendus aux urnes pour élire leur président ainsi que leurs députés. Alors, quelles mesures ont été prises pour éviter les bogues informatiques et les soupçons de fraude pendant l'élection et après l'annonce des résultats en cas de contestation? Également, est-ce que les dispositifs de sécurité sont envisagés en cas de tension après l'annonce des résultats?
Pour vous répondre, voilà. Pierre, nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial au Kenya. Bonjour Sébastien Nemeth.
Bonjour Anne et bonjour à Pierre.
Les dernières élections avaient été mouvementées. On se souvient par exemple des violences très graves. En 2007, plus d'un millier de morts. Et en 2013, heureusement, le bilan beaucoup moins lourd, mais avec quand même pas mal de problèmes techniques et d'accusations de fraude. Qu'est-ce qui a été mis en place depuis, Sébastien?
Alors, la grande avancée s'appelle KIEMS. C'est en fait une tablette numérique fabriquée par la société française Safran. Elle est capable de reconnaître l'identité biométrique des électeurs, c'est-à-dire qu'elle vous sort votre profil complet grâce à votre empreinte digitale. C'est la première fois que ce système est utilisé au Kenya. Chaque citoyen, en théorie, est enregistré dans le système. Hier, quand ils sont arrivés dans les bureaux de vote, leur empreinte a été prélevée par la tablette, qui a un petit espace pour poser le doigt. Le profil s'affiche, les agents électoraux vérifient la photo, mais également la carte d'identité pour voir si tout correspond, et ensuite vous pouvez voter. Ensuite, cette tablette est connectée à Internet, donc une fois que le résultat est connu dans le bureau, il est enregistré dans cette tablette avec une copie scannée des procès-verbaux, signée par les membres de la commission électorale et les représentants des partis. Tout cela est transmis numériquement au centre de décompte. Les urnes, elles aussi, de toute façon, rejoignent ce même centre. Et enfin, pour plus de transparence, on a une diffusion en temps réel des résultats dans les centres de décompte, mais également sur un site internet accessible par tous. Et c'est bien là un peu ce qui pose problème en ce moment, hein, c'est que l'opposant Raila Odinga affirme que la commission électorale refuse de lui donner les procès-verbaux et que donc il ne reconnaît pas les résultats affichés en ligne qui ne sont pas les scans de CPV, ce sont des chiffres saisis sur ordinateur. Il a demandé à ce qu'on arrête le décompte, ce qui a été refusé par la commission électorale. En ce moment même, au moment où on parle, Raila Odinga est en conférence de presse et il vient de brandir des soupçons de hacking dans le système de la commission électorale. Et donc il conteste de façon encore plus véhémente maintenant ces résultats et cette élection.
Alors justement, ça rejoint l'autre question de Pierre qui s'interrogeait sur le dispositif de sécurité prévu en cas de tension après l'annonce des résultats. Tout le monde se souvient encore du drame de 2007 et vous le disiez, ce matin, l'opposition rejette les résultats provisoires qui donnent le président en tête. Est-ce que les autorités ont prévu des mesures spéciales?
Alors, pour ces élections, le gouvernement a déployé ce qui est présenté comme la plus importante opération de sécurité de l'histoire du pays. On a plus de 150 000 policiers déployés à travers le territoire. Il y a aussi des forces spéciales, des agents des différentes structures de sécurité de l'État. Préalablement, les autorités ont également désigné des hotspots, ce qu'on peut appeler des zones à risque où les tensions ont été fortes dans le passé. Il y a par exemple 17 comtés en province, mais également une dizaine de quartiers de Nairobi. Dans tous ces endroits, le dispositif de sécurité a été renforcée. Maintenant, il ne faut pas oublier que les forces de sécurité kenyanes ont été plusieurs fois pointées du doigt pour leur brutalité et qu'en 2007, une commission d'enquête avait affirmé qu'elles avaient fait plus de 400 morts dans la répression. On ne sait pas au moment où vous et moi nous parlons ce qui va se passer, notamment avec les déclarations de l'opposition. Il y a une inquiétude qui monte. Donc on entre dans une période de flou. On a encore, il faut le rappeler, un décompte qui est en cours. Ce n'est pas encore terminé, hein. Les chiffres sont vraiment très très provisoires, même si le président Kenyatta est en tête. Il reste environ 20% des bulletins et des résultats à être transmis en direct sur le site internet. Donc beaucoup de choses peuvent encore se passer avant l'affichage des résultats finaux.
Merci Sébastien Némède d'avoir été en direct de Nairobi pour répondre à Pierre. On vous retrouve tout au long de la journée pour suivre l'évolution de la situation au Kenya. Pierre, on vous souhaite une très bonne journée à Kinshasa. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je vous rappelle le numéro si vous voulez participer, 339 693 693 70. C'est le numéro qu'a composé Abakar. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Madame. Oui, bonjour à tous les visiteurs. Je voudrais savoir, pour le dernier 100 mètres des symboles de Sakaria, il a été battu par les Américains, Justin Gatlin et Coleman. Ma première question, c'est de savoir le départ des votes et la défaite de la compatriote Hélène Thompson marque la fin de la domination jamaïcaine. Et j'ai une autre question, quel coureur peut succéder à Usain Bolt?
Alors Christophe Jousset, qui couvre ces championnats du monde d'athlétisme pour RFI, est en ligne avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour Anne et bonjour à Abakar.
Alors ça y est, Usain Bolt prend sa retraite sans titre supplémentaire aux 100 mètres. Il en a quand même déjà 3 aux championnats du monde, 3 aux Jeux Olympiques, mais cette fois-ci, eh bien, il n'a pas été le plus rapide. Déception aussi pour Elaine Thompson, comme le disait Abakar. Elle était favorite du 100 mètres féminin, mais elle a complètement raté sa course. Est-ce que ça veut dire, Christophe, que l'heure de gloire de l'athlétisme jamaïcain est passée?
Alors d'abord il faut différencier les deux, hein, parce que Bolt, lui, il s'en va, ça c'est sûr, sauf énorme revirement de situation, il ne courra plus en compétition et il n'apportera donc plus à son pays toutes ces médailles qu'il a rapportées depuis une dizaine d'années. Et Thompson, elle, c'est un... que 25 ans et sa 5e place sur 100 mètres samedi soir, c'est la suite d'une maladie, hein, puisque elle a été malade pendant l'échauffement juste avant la finale. Donc on va la revoir pas forcément dans ces championnats du monde, mais comme elle n'a que 25 ans.
Christophe Jousset, la ligne a été coupée. On essaiera de vous joindre un petit peu plus tard. En attendant, on va peut-être prendre une autre question. Est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? Bonjour Arfang.
Bonjour Anne Kantner, comment vous allez?
Je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Vous nous appelez pour nous parler de la Corée du Nord.
Oui. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté le samedi des sanctions économiques contre la Corée du Nord en réponse des missiles balistiques en juillet dernier. Pourquoi la Chine et la Russie ont décidé cette fois-ci de sanctionner la Corée du Nord?
Alors, Juliette Morillo, spécialiste des deux Corées, est en ligne avec nous pour vous répondre. Bonjour.
Bonjour.
Ces sanctions, effectivement, ont été adoptées à l'unanimité au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui est plutôt rare, en fait.
Oui, c'est assez exceptionnel. Généralement, la Chine et la Russie ont tendance à bloquer ces sanctions et à entraîner des discussions très longues. Mais cette fois-ci, pour répondre à notre auditeur, il était important symboliquement de taper un petit peu fort, il n'y a pas d'autre expression, et de se mettre dans le concert des nations. Ceci dit, la Chine et la Russie ont voté les sanctions, mais sur le terrain, les choses diffèrent. Il faut regarder les déclarations des uns et des autres. La Chine a rappelé aux États-Unis qu'il ne fallait pas, par exemple, mêler économie et sanctions. Et il faut savoir que la Chine et la Russie, malgré ces sanctions, appellent à un dialogue avec Pyongyang et ce qu'on appelle le double freeze, c'est-à-dire une solution qui verrait finalement le gel des essais de tir balistique de la part de la Corée du Nord contre, mais là il faudrait que les États-Unis acceptent, le gel, l'arrêt des exercices militaires conjoints entre Sud-Coréens, Américains et éventuellement Japonais. Et l'idée serait pour la Russie et la Chine serait de redémarrer finalement, comme l'a proposé Sergueï Lavrov, serait de redémarrer les discussions à 6, les pourparlers à 6, c'est-à-dire Corée du Sud, Corée du Nord, Japon, Russie, Chine, États-Unis, de façon à calmer les tensions sur la péninsule, mais avec les dernières déclarations de Donald Trump qui dit que la Corée du Nord doit redouter le feu, la situation peut déraper à tout moment.
Oui, le président américain a encore fait monter un peu plus la pression ces dernières heures. Arfang, vous aviez une autre question, je crois.
Oui, bien sûr. Quel va être l'impact de cette sanction ? Pourra-t-elle dissuader Pyongyang de sa politique de menace nucléaire ?
Alors Juliette Morillo, c'est vrai que ce n'est pas la première série de sanctions adoptées contre la Corée du Nord. Est-ce que cette fois-ci, les mesures sont suffisamment lourdes pour faire plier Pyongyang ?
Alors, ce sont des mesures extrêmement lourdes puisque ces sanctions vont priver Pyongyang quand même de 1 milliard de dollars de revenus, soit un tiers de ce qu'il obtient de ses exportations annuellement. Donc c'est quand même beaucoup. Ceci dit, comme vous le précisez, ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord doit affronter des sanctions. Elle y est habituée et malheureusement, dans ce genre de cas, c'est plus la population qui va subir de plein fouet ces sanctions sur le quotidien, parce que la Corée du Nord ne va pas renoncer à son programme balistique et nucléaire. Je vous rappelle que le programme nucléaire est inscrit dans la Constitution coréenne depuis 2012. De facto, la Corée du Nord est une puissance nucléaire et elle se sent menacée directement par les États-Unis. Donc, ils ne vont pas, je ne pense pas que ça va infléchir beaucoup, d'autant que jusqu'ici, la Chine n'a jamais été très très claire dans cette histoire-là. Comme je le disais il y a quelques minutes, la Chine a rappelé par la voix de Wang Yi qu'il ne fallait pas que les États-Unis mélangent économie et sanctions concernant les missiles. Donc tout ça, il y a un commerce sur le terrain qui se fait. Je pense pas que ça fera infléchir beaucoup la Corée du Nord. J'ai peur que ça ne fasse que sanctionner la population et jeter de l'huile sur le feu.
Merci beaucoup Juliette Morillo. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « La Corée du Nord en 100 questions » qui est paru aux éditions Talendier. Merci Arfang de nous avoir appelé. On espère que la situation est un peu plus claire maintenant. On a retrouvé Christophe Jousset qui suit pour nous les championnats du monde d'athlétisme. On va peut-être répondre à la deuxième question d'Abakar parce que c'est vrai que c'est quand même important la suite d'une légende comme Usain Bolt. Est-ce qu'il y a un coureur aujourd'hui qui peut lui succéder, Christophe ?
Difficile à dire. Pour l'instant, on serait tenté de dire personne parce que Bolt a été un phénomène exceptionnel à deux points de vue. D'abord, grâce à ses résultats et ensuite avec sa manière d'être qu'on a tous constaté qu'il avait une personnalité hors du commun. Alors, côté résultats, c'est un palmarès incroyable. Il a réussi 3 triplés olympiques, par exemple. C'est-à-dire qu'il a gagné le 100, le 200 mètres et le 4 fois 100 mètres à 3 reprises aux Jeux de Pékin, aux Jeux de Londres, aux Jeux de Rio. Et personne, évidemment, n'avait jamais fait ça. Et franchement, on ne parierait pas que le prochain qu'il fera soit déjà né. Donc, si vous reprenez l'histoire du 100 mètres au championnat du monde, vous voyez que Bolt a gagné 3 fois le 100 mètres et qu'avant lui, il y a eu 2 autres sprinteurs qui ont réussi cette passe de 3. Carl Lewis, c'était dans les années 80, et Maurice Green dans les années au tournant des années 90 et 2000. Donc, ça ne se produit pas si souvent. Maintenant, si vous cherchez le successeur de Bolt en termes de charisme, un athlète qui soit ultra dominateur sur la piste et donc aussi que le public adore parce qu'il fait le spectacle avant et après la course, il faudra sans doute patienter très longtemps. On parle actuellement de Wout van Niekerk comme de l'homme qui pourrait reprendre le flambeau et devenir en quelque sorte le porte-drapeau, le nouveau porte-drapeau de l'athlétisme mondial. Mais le Sud-Africain, quand on le regarde évoluer sur le stade, il est beaucoup plus introverti. On ne le voit pas du tout pour le moment comme un champion capable d'électriser les foules comme Bolt l'a fait pendant une dizaine d'années.
Merci beaucoup Christophe Jousset. Abakar, voilà, vous avez l'avis du spécialiste. Il y a quelques noms, mais il va sans doute falloir attendre encore un peu pour trouver un athlète de l'ampleur d'Usain Bolt. Il nous reste quelques minutes avant le prochain journal. On va accueillir Ahmed Moussa Koné pour une dernière question. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Conakry et vous avez une question justement concernant la Guinée.
Oui, le 28 septembre 2009, les opposants se sont regroupés au stade du même nom pour protester contre l'éventuelle candidature de l'ex-chef de la junte, Moussa Dadis Camara. Et plus de 150 opposants y ont été massacrés. Lors de son dernier passage sur les zones RFI, le ministre guinéen de la Justice, Maître Cheikh Sako, avait déclaré que un procès pourrait se tenir d'ici fin 2017. J'aimerais savoir pourquoi il a fallu 8 ans après les faits pour que la justice guinéenne décide d'ouvrir un procès.
Alors pour vous répondre, Florent Gel est en ligne avec nous, responsable Afrique à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Bonjour Florent Gel.
Bonjour.
Je précise à nos auditeurs que la FIDH est partie civile dans cette procédure en Guinée. Alors pourquoi est-ce que c'est si long ?
C'est si long parce que d'abord il y a le temps de la justice qui est long, il faut instruire, il faut enquêter et ça prend beaucoup de temps. Mais il est vrai aussi que dans ce dossier, beaucoup de retard a été pris. Premièrement parce que il y avait des obstructions politiques, deuxièmement parce que ce dossier est un dossier hautement sensible puisqu'il les 14 inculpés qui ont été pointés dans ce dossier sont de hauts responsables militaires et civils de l'ancienne junte au pouvoir et que il a été très compliqué pour les magistrats dans une justice guinéenne qui ne faisait pas preuve jusqu'à présent de son indépendance, d'instruire ce dossier, de convoquer les gens, d'enquêter tout simplement, ou simplement que des militaires répondent à des convocations pour avoir des simples informations au sein de l'armée. Il a fallu parfois beaucoup de temps. Ce n'est qu'avec l'arrivée de l'actuel ministre de la Justice que les choses se sont un peu accélérées, et ça il y a environ 2 ans et demi, 3 ans.
Donc ça avance quand même. Ahmed Moussa Kone, vous aviez une autre question ?
Oui, et ensuite j'aimerais savoir si la justice guinéenne pourrait se tenir un procès équitable, juste et transparent.
Effectivement, hein, c'est la grande question. Florent Gel, est-ce que le procès peut se dérouler de manière transparente en Guinée ?
En tout cas, il faut qu'il se déroule en Guinée de façon transparente. Manifestement, le ministre de la Justice et les autorités guinéennes se sont engagés à cela, ils l'ont répété. Et on parie, nous, en tant que partie civile, sur un tel procès. Sinon, on aurait déjà demandé à ce que le procès soit délocalisé à la Cour pénale internationale, qui s'est saisie de l'affaire aussi à La Haye, qui surveille de comment se déroule le procès. Mais c'est évidemment un enjeu. Pour le moment, les avocats de la défense peuvent jouer leur rôle. Les avocats des parties civiles et les parties civiles peuvent également jouer leur rôle. Donc, on espère, mais évidemment, on verra au moment, on est confiant dans la possibilité d'un procès juste et équitable.
Mais c'est vrai que c'était une des options qui avait été envisagée. La Cour pénale internationale a toujours laissé entendre qu'elle pourrait se saisir du dossier s'il n'y avait pas de procès en Guinée. Est-ce que la CPI a fixé une date, une sorte d'ultimatum au-delà duquel elle prendrait la main sur cette affaire ?
Elle n'a pas fixé de date en tant que telle, mais il est certain que les annonces répétées du gouvernement pour la tenue d'un procès en 2017 fixe un peu de soi-même une sorte de date, si vous voulez. Mais évidemment, la CPI souhaiterait que ce procès se déroule en Guinée, puisque c'est la responsabilité première de la Guinée que de juger de tels crimes, et la Cour pénale internationale n'a pas vocation à juger tous les crimes qui se déroulent sur tous les continents, et en particulier en Afrique. Donc la CPI souhaiterait que ce procès, comme nous, se déroule en Guinée, et ça serait que justice.
Merci beaucoup, Florent Gel, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le responsable du département Afrique de la FIDH. Ahmed Moussa Kone, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. On vous souhaite une très bonne journée à Conakry, la Guinée. On va continuer d'en parler, on continue de parler de ce procès, justement, de toute la procédure judiciaire concernant le massacre du 28 septembre 2009. C'est le sujet du débat d'Appel sur l'actualité aujourd'hui. Dans 10 minutes, on en parlera. Il y a déjà beaucoup de commentaires sur Facebook. Alpha nous dit qu'il doute de la volonté et de la capacité de la justice guinéenne à juger cette affaire. Osana pense qu'il vaudrait mieux confier le dossier à la Cour pénale internationale. On en parlait il y a quelques instants avec Florent Gel de la FIDH. N'hésitez pas à participer, vous aussi. On attend vos messages. Dites-nous ce que vous en pensez. On se retrouve juste après le journal. A tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Bonjour.